Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Vous écoutez
RMC. Pascal, éducateur, les adolescents difficiles, il connaît.
C'est un réel plaisir mais de pouvoir parler la même langue, pas avec les cancres.
La du Marocain sur ce coup de pied arrêté.
Pendant plusieurs semaines, il va vivre en immersion au sein d'une famille en perdition.
Vouloir mettre une passe décisive, mais moins deux, je me fais piéger par Rabih Nicolai. C'est des moments inoubliables.
Crochet de Ziyech, le ballon retrait. Oh, la reprise, ce but de l'intérieur. Et c'est Aboukhlal sur ce contre-retrait. Incroyable, le Maroc qui est en train de dresser les Diables Rouges.
Son objectif, renouer des liens rompus entre un père, une mère et un enfant.
Oh, oh, les mains.
Alors on en parle beaucoup de cette ambiance autour de l'équipe de France. Ce qui se passe en interne, c'est primordial. Jérôme, tu nous en parles quand tu décris les ouais. ambiances de vestiaire. Ce qui peut expliquer d'ailleurs cette bonne ambiance, le bon début de mondial de l'équipe de France. Et alors on a l'exemple totalement inverse en Belgique, messieurs, où la tension est là et bien là. Tension renforcée par la défaite face au Maroc, bien sûr. L'ambiance, est-ce l'ingrédient le plus important pour aller loin? 32-16, appelez-nous pour en débattre. On va vous décrire ce qui se passe avec la sélection belge, avec Florent Germain. Salut Flo.
Salut Flo.
Salut Jean-Louis. Salut les amis, salut à tous.
C'est tendu.
Ah, c'est tendu. C'est très tendu. On est même sur des règlements de compte, un peu de cours d'école. Je mets le contexte, je pose le contexte un petit peu. C'est surtout Yann Vertonghen qui s'est vexé. Il a répondu ironiquement après le match contre le Maroc à Kevin De Bruyne, parce que le joueur de City, dans une interview au Guardian, rappelez-vous, il avait dit que la Belgique avait un peu laissé passer sa chance en 2018, que désormais ils étaient plus outsiders parce que trop vieux. Et Vertonghen, lui, il a retenu, bon, il a 35 ans, que le terme trop vieux. Et après le match, il a eu cette petite dételle à Vertonghen. Je suppose qu'on attaque mal aussi parce qu'on est trop vieux. Et ce qu'il a mal apprécié, ce qu'il n'a pas apprécié également, c'est une petite sortie d'Eden Hazard qui est plus récente. Là, c'était en pleine Coupe du Monde où Eden Hazard avait dit que bon, on n'avait pas la défense centrale la plus rapide du monde. Ça aussi, Vertonghen, il a pris pour lui. Altercation entre les deux hommes, même si Eden Hazard, écoutez, a démenti. En tout cas, il a bien été questionné aujourd'hui par les journalistes.
Est-ce que tu peux répondre avec oui ou non? Est-ce qu'il y a eu une discussion entre vous et Yann Vertonghen après le match contre le Maroc?
Non, le vestiaire, il n'y a rien eu. Juste le coach a parlé. Voilà, la discussion, elle a eu hier soir à l'hôtel.
Tu t'entends encore très bien avec Yann?
Bien sûr. Je me suis toujours bien entendu avec Yann. Et on ne s'est pas battu. Okay. Moi, je n'oserais pas me battre avec lui. Il est plus grand que moi. Voilà, c'est pas... je ne suis pas bête non plus.
Bon, l'humour, c'est toujours une bonne arme pour démentir. En tout cas, Roberto Martinez, le sélectionneur, a reconnu qu'il y avait des tensions. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui se parlent plus trop dans ce vestiaire-là. Donc, il fallait une réunion de crise pour aplanir les choses. Et celui qui en parle le mieux, écoutez, c'est le gardien du Real Madrid, Thibaut Courtois.
Le principal problème, peut-être, qu'on peut faire maintenant, c'est de voir des trucs sur les réseaux sociaux ou sur les journaux, parce que c'est pas toujours ce qu'on a dit. Et si tu prends ça et tu éclaires pas ça avec ton autre coéquipier, peut-être, il peut y avoir un petit problème. Moi, j'ai pas senti qu'il y avait de problème, mais c'est bien toujours qu'on a une réunion entre tout le monde et que tout le monde se peut dire aux yeux ce qu'on pense, tu vois, et comme ça, tout est à régler et il n'y a pas de problème. Je crois que le meilleur truc qu'on peut faire, c'est être honnête, parce qu'après, sur le terrain, on doit se battre un pour l'autre. Si on est honnête avec tout le monde, je crois que c'est ça le plus important.
Voilà, la réunion date d'hier et visiblement les joueurs sont sortis de cette réunion un petit peu plus solidaires. Est-ce que c'est une solidarité de façade? Eden Hazard a promis ouais. l'union sacrée pour au moins battre la Croatie demain et se qualifier pour les huitièmes de finale.
Ouais. Merci Flo.
Merci Flo.
Jérôme, alors, cette bonne ambiance, est-ce que c'est l'ingrédient numéro 1 pour aller loin en Coupe du Monde? Ou est-ce que ça peut péter dans un vestiaire, les problèmes mis au jour et on règle l'affaire et on repart
Non mais ça peut péter dans un vestiaire, Jean-Louis. Tu crois que c'est pas un vestiaire, c'est 25 ou 26, je sais pas combien ils sont les Belges, personnalités...
26,
voilà,
on est les seuls à pas être 26.
Nous, on fait pas pareil que les autres, mais il y a 26 personnalités différentes. Il y a des groupes qui s'entendent beaucoup mieux, de toute façon, et groupes, ça part de deux, hein, donc 2, 3, 4, 5, 10. Moins il y en a de groupes, mieux c'est quand même, mais n'empêche que c'est comme ça, les affinités de chacun, les générations. En plus, là, les Belges font partie de ceux-là où il y a des générations différentes. Il y a des joueurs qui ont 35 ans, d'autres qui sont très jeunes. Donc, automatiquement, c'est pas les mêmes centres d'intérêt. Et que tu passes beaucoup de temps sur le terrain, certes, mais le plus de temps que tu passes sur une compétition comme ça d'un mois, c'est dans la vie quotidienne. Donc, automatiquement, il peut y avoir des liens, et normalement, ça doit se passer comme ça, des liens qui se créent, des liens forts. Et plus ils sont forts, mieux c'est quand tu es sur le terrain dans l'adversité, ce qui est le cas des Belges aujourd'hui. Ou sinon, quand tu as des mauvais résultats, des mauvaises performances collectives, mais surtout individuelles, où les statuts sont remis en question, eh ben, c'est difficile de se dire les choses. C'est là que les tensions éclatent en général, et que là c'est au-delà de la tension, Jean-Louis. Oui. Parce que là tu donnes à manger à tout, au monde extérieur, aux médias, avait à faire des choses comme ils ont fait sur le terrain, sur une compétition. Et je te parle même pas des entraînements, là. Je te parle sur le terrain en compétition. Tu dois pas sentir l'animosité. Tu dois pas sentir la frustration, l'énervement, des choses que tu gardes en toi et qui explosent sur le terrain. T'imagines quand même, on est en sélection. Ça revient un peu à ce qu'on a vécu, nous, en 2010. Alors, c'était à l'extrême avec Knysna. Oui. Mais je pense que, aux yeux de l'extérieur, du monde extérieur, qui vivent pas dans le vestiaire et dans la vie au quotidien avec la Belgique, à l'hôtel, je suis désolé, mais ils doivent pas donner du pain là comme ça, pour que à l'arrivée on en fasse des tonnes, et que automatiquement ça se ressent sur les performances. Le sélectionneur, il a fauté.
En fait,
moi, je dis le responsable. Tu sais qui c'est,
sur le terrain, qui sont pas bien.
Ouais, mais vas-y.
Attends, ma question, pour prolonger ce que dit Jérôme, et je vous donne la parole, c'est en fait quel est l'élément déclencheur? Est-ce que c'est on n'est pas bon sur le terrain, donc il y a une mauvaise ambiance, ou il y a une mauvaise ambiance, c'est pour ça qu'on n'est pas bon sur le terrain?
Je pense que ça part de beaucoup plus loin, hein, parce que déjà on avait entendu que De Bruyne comment il s'appelle, le gardien là,
Courtois,
De Bruyne et Courtois, qui c'est une longue histoire, qui
parle pas depuis des années
plus trop. Pour rebondir sur ce que disait Jérôme, l'ambiance dans un groupe, elle est primordiale. Même si il y a des clans, on va dire des clans, des groupes qui se créent, des infinités créent, tu dois faire en sorte de garder une ambiance pour le bien du groupe, pour les matchs et tout ça. Regarde la différence, nous, les Sénégalais. Même s'ils sont pas bons, ils ont une ambiance qui est incroyable dans le groupe depuis pas mal d'années maintenant, depuis qu'Aliou l'a repris cette sélection, et ça se ressent sur le terrain. Même avec un joueur important qui est pas là dans cette compétition, ils arrivent à faire des résultats. La Belgique, ils ont tous leurs joueurs, mais tu le vois sur le terrain qu'ils sont pas heureux, qu'il y a pas de cohésion. Les joueurs, on a l'impression ils s'aiment pas les uns les autres, et ça peut pas fonctionner comme ça. C'est impossible. L'ambiance, c'est important, Jean-Michel, dans un groupe.
Ouais, enfin, moi j'ai entendu plein de choses. Je pense que aujourd'hui, si l'ambiance n'est pas bonne, et si on parle de l'ambiance, c'est tout simplement parce que la Belgique est passée est restée sur le quai lors de l'Euro précédent et de la Coupe du Monde précédente, voilà, et que ils sont passés à deux doigts de la montre en or, et là ça les a un petit peu bousculés. Mais l'ambiance, elle est tout simplement parce que sur le terrain ils sont pas bons. Ils sont pas bons, ils ont pas de résultats, donc il y a des tensions, et j'aime beaucoup, parce que ça me rappelle l'interview d'un gardien de but qui jouait au Girondins de Bordeaux à l'époque, et qui avait dit, là, ils ont fait une réunion hier, hein, et ils sont sortis,
tout était
réglé. Et moi, ça me fait doucement rigoler. Et je vais poser une question. Moi, j'ai joué dans une équipe où les joueurs n'étaient pas forcément, au départ, en tout cas, très des vedettes et des talentueux, une équipe où il y avait des atomes crochus. Je vous le dis tout de suite, les gars, je sais pas pourquoi il y avait des atomes crochus. On mangeait pas tous les jours ensemble, on passait pas les vacances ensemble, mais sur le terrain, même si on était copains, mais sur le terrain on avait une solidarité, de l'altruisme. Et je vais dire à Jérôme, aujourd'hui, Jérôme, tes copains, ils sont dans les équipes avec lesquelles tu as gagné ou avec lesquelles tu as perdu. Il me semble que tu es plus proche des gars avec qui tu as eu une aventure, avec qui tu t'es levé les fesses et le reste à Monaco, par exemple. Il me semble. Enfin, je ne sais pas.
Non, mais c'est vrai, tu as raison.
Mais arrêtons de dire que l'ambiance suffit. C'est pas vrai, c'est pas parce que tu fais une réunion. Ouais, on a fait une réunion, il y avait tous les joueurs.
Pour toi, c'est le terrain qui dicte ce que va être l'ambiance.
En fait,
Mais bien sûr,
en fait, Jean-Michel,
la Belgique est passée. La Belgique, avant de parler de l'ambiance, aujourd'hui, la Belgique joue avec des joueurs qui n'ont plus leur place en Coupe du Monde.
Oui, mais sauf que Jean-Michel, moi je suis totalement d'accord avec ce que tu dis.
C'est quand même problématique.
Oui, mais il y a une importance quand même. Il y a une importance dans une ambiance. Quand tu gagnes,
il faut tout.
C'est quand même.
Gagnes,
je suis d'accord. Jean-Michel, quand tu gagnes.
Attends, Mamad, laisse Jérôme finir et je te donne la parole.
Ouais, quand tu gagnes, Jean-Michel, tu sais très bien que c'est plus facile de se dire des choses. Et ça crée moins de tension. Par contre, et c'est là que tu crées sur des victoires, et les Belges en ont eu l'occasion, parce que avant cette Coupe du Monde, même si les résultats n'ont pas toujours été top, il y a quand même eu des belles choses de dites sur les Belges. Et c'est pour ça qu'ils faisaient partie des outsiders haut placés de cette Coupe du Monde. À l'arrivée, quand tu perds le premier match ou t'es pas bon sur le premier match, que tu te poses des questions, que ceci, cela, il y a des choses qui éclatent.
Et tu le gagnes le premier match, miracle.
Oui, mais dans la difficulté. Tu le gagnes dans la difficulté. Et à l'arrivée, les prestations n'étaient pas bonnes. Mais ça, je suis désolé. Tu peux créer, même si tu gagnes, ils n'ont pas créé de lien particulier. L'ambiance n'était pas bonne. De toute façon, ça a été masqué avec cette victoire. Ouais. Là, ça a explosé parce que l'ambiance n'est pas bonne, parce qu'ils ont pris une grosse tarte dans la tronche avec cette défaite contre le Maroc.
Et que
pour moi, et on l'a vécu aussi, que ça soit au niveau international ou au niveau national, je suis désolé, le garant de tout ça, c'est le sélectionneur, c'est l'entraîneur. L'entraîneur, pour moi, il a pas les épaules pour entraîner cette Belgique, parce que il a fauté dans la construction de ce groupe. Quand on entend que
mais dans la construction, qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus? Il n'a pas un réservoir non plus.
Quand on entend les critiques des joueurs offensifs sur les joueurs défensifs, Jean-Louis, je suis désolé. Quand on entend que Kevin De Bruyne, comme Eden Hazard, ils ont Alderweireld, Vertonghen, ils pensent beaucoup de choses, Witzel, ils pensent beaucoup de choses parce que c'est comme ça et ça se voit dans le jeu, dans les réactions, la frustration qu'ils ont quand ils n'arrivent pas offensivement à faire des différences. Automatiquement, tu t'en prends. Aux joueurs qui sont derrière toi, et tu te dis, mais pourquoi ils n'arrivent pas à me trouver? Vous avez vu les matchs de Kevin De Bruyne? Franchement, il est transparent parce qu'ils n'arrivent pas à lui faire de passe. Alors lui, il n'est pas exempt de tout reproche. Peut-être qu'il est fatigué, peut-être qu'il est moins inspiré. Ok, c'est vrai, quand il a le ballon dans les pieds, des fois, il fait des passes, tu te dis, quand même pas toi, Kevin. Moi, c'est un de mes joueurs préférés. Mais tu peux pas avoir une telle différence entre son épanouissement en club avec Guardiola comme ça.
Aussi.
Oui, mais il est pas entouré. Mais sauf que je suis désolé. Aujourd'hui, c'est aussi la faute des milieux de terrain qui sont derrière lui. C'est aussi la faute des défenseurs qui mettent 3 heures à le toucher.
Tu tombes sur le sélectionneur, Jérôme.
Et le sélectionneur, il doit anticiper tout ça.
Mais qu'est-ce que c'est son rôle qu'il fasse de plus?
Pourquoi on parle de l'équipe de France comme ça, Jean-Louis? Pourquoi on parle de
Jean-Michel?
Pourquoi on parle de Didier Deschamps comme ça?
Il n'a pas le même réservoir.
La réalité, c'est que Didier Deschamps, dans la vie d'un groupe, il faute jamais. Jamais. La seule fois où il a fauté, il l'a pris dans la tronche, c'est à l'Euro. Parce qu'il n'a pas anticipé le retour de Karim Benzema et ce qu'il pouvait amener Jérôme, dans le groupe.
Ça, Jean-Michel, c'est la réalité.
Oui, Jean-Michel.
Non, simplement, dans l'affaire, là, vous connaissez le fameux adage, on ne change pas une équipe qui gagne. Mais lui, il a pas changé une équipe qui perdait. Dernièrement, enfin, il y avait quand même des clignotants, quand même, il y avait des signaux d'alarme. Et c'est vrai qu'il n'arrivait jamais au bout avec des joueurs extrêmement talentueux. Donc, il y avait déjà peut-être un petit problème d'entente. On va dire, c'était récurrent, c'était endémique, et certainement. Mais à partir du moment où tu as une équipe qui ne gagne plus, le dernier match qu'ils ont fait avant la Coupe du Monde. Ils sont quand même allés se faire taper nettement par l'Égypte.
Eh oui. Donc il aurait dû partir en défense avec Théâtre et vous de
mais
face.
Si tu changes pas l'équipe qui gagne, vieux. Tu as mais le droit quand même de changer l'équipe qui gagne.
Non, mais
pas.
C'est des remplaçants là. Vous me dites, il faut enlever les joueurs là. Il faut faire un. Donc je vous donne le nom des défenseurs qui sont là à la place.
Excuse-moi, mais je sais pas, Mamad, est-ce que tu as un avis là-dessus en disant quand même, je sais pas si tu penses comme moi. Quand le sélectionneur il fait un groupe. Il a sa colonne vertébrale.
Non, mais je dis juste, Jérôme, que c'est difficile, qu'on n'a pas le même réservoir.
Il a sa colonne vertébrale. Ou il est obligé de faire, Mamad, je sais pas ce que t'en penses. Entre Courtois et De Bruyne, on sait que c'est très tendu depuis X années pour des raisons, privées.
Les meilleurs à leur poste en Europe, tu vois.
Exactement. Je te dis pas de faire un choix. Là, t'es obligé de faire avec. De faire avec. et que ça rejaillisse pas sur l'ambiance Vertonghen collective.
Toi, t'aurais arrêté avant.
Mais les autres, quand tu vois que tes joueurs leaders, son capitaine Eden Hazard, Kevin De Bruyne, qui est son deuxième capitaine, son leader technique, ils pensent ça de la plupart des défenseurs. Tu penses que là, tu ne peux pas leur donner raison en disant oh là là, là, au premier accro.
Non, mais oui, je vois ce que tu veux dire.
Il va y avoir un problème. Mamad, qu'est-ce que tu en penses?
Publiquement, non, en plus, ils le disent publiquement, et ça, c'est. Et ça, c'est pas bien. Non, après, moi, je suis d'accord que ce soit avec toi ou Jean-Michel. Moi, je voulais juste revenir sur le mot réunion, Jean-Michel. Quand tu fais une réunion, c'est justement pour crever l'abcès. Tu vois, moi, j'ai souvenir, moi, quand à un moment, quand on était à l'OM, où les résultats étaient mauvais, Didier Deschamps avait fait une réunion, voilà, on avait demandé au coach. Et dans cette réunion, il y a des choses qui sont sorties et c'est là que j'ai su ce que certains joueurs pensaient de moi, tu vois. Par exemple, à Stéphane Mbia, il m'a dit non, Mama, toi, tu défends pas assez, tu reviens pas assez, tu râles trop sur les ballons, et si, et ça, j'ai dit, ah, ok, c'est vrai.
Donc, dans cette réunion, vous pouviez pas vous le dire.
C'est ça. On se le disait pas, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, qu'il y a quelque chose qui allait pas, mais personne le disait, personne parlait, c'est-à-dire que peut-être lui m'aimait pas, mais il me le disait pas. Mais une fois qu'il me l'a dit, j'ai dit ok. Maintenant je sais.
Pas, hein. Je vais parler. Allez, on va continuer le débat dans une seconde. Il y a Maxence. Non, mais t'as bien fait de nous raconter.
Heureusement qu'on a pas fait de réunion à trois parce que je t'aurais déchiré. Hein.
Bah, vous faisiez pas des réunions à la boîte là au Makumba là.
Ouais, bah, il y a eu tous les matchs. Au bout d'une heure, je pouvais plus lui parler. Il y avait plus personne.
Allez, dans un instant, Maxence appelle 32-16. Il veut débattre avec nous. Est-ce que l'ambiance est l'ingrédient le plus important pour aller loin en Coupe du Monde?
19h20 sur RMC en direct de Doha avec Jean-Louis Tour. On est bien dans Rotten sans flamme, bien sûr, comme d'habitude. Vous voyez, on a repris notre habitude et ça nous a manqué 2 heures d'émission complète avec le débrief du premier match tout à l'heure, du moins des deux premiers matchs. Et puis là, on va lancer tout à l'heure, bien sûr, l'after avec les deux derniers matchs de la journée. On est avec Jean-Louis Tour, on est avec Jean-Michel Larquet et avec Mamadou Niang. Restez bien avec nous dans 10 minutes. On va reprendre nos habitudes. Il y a un ring des supporters et après,
ring des supporters sur le parc. Hein. Imaginez-vous le PSG hors du parc, 32-16. Ah, et après,
ça gronde, Jean-Louis.
Sur l'avant-match, notamment d'Iran-États-Unis et d'Angleterre, Pays de Galles. Mais tout de suite, on finit sur l'ambiance dans les vestiaires. On est parti de l'exemple belge. L'ambiance était l'ingrédient le plus important pour aller loin. Maxence a fait le 32-16 pour débattre.
Salut Maxence.
Bonjour, bonsoir messieurs. Merci beaucoup de m'accueillir à l'antenne.
Oui, un accent belge.
Bonsoir Maxence, tu nous appelles d'où, Maxence?
J'aime pas entendre que j'ai l'accent belge. De venant français, ça le fait jamais trop. Mais je viens de Bruxelles, donc effectivement.
Quand tu l'as pas, t'as pas l'accent. Je me suis fait une histoire. Il y a pas
d'accent. Tu as pas l'accent. Vas-y Maxence. qu'est-ce que tu penses de ton équipe belge? À mon avis, elle t'a déçu depuis le début de la compétition.
Oui, tout à fait. Et je ne peux que te rejoindre, Jérôme, quand tu parles de Roberto Martinez qui a un peu perdu la main. Mais je pense qu'en voyant face au Canada, donc le premier match de la Coupe du Monde, que c'était pas Trossard mais Eden Hazard qui jouait, je pense que là on a vraiment tout le symbole de qui est Roberto Martinez. En fait, il y a une histoire qu'on racontait encore à la télévision belge hier de Louis van Gaal qui en 2014 avait dans son groupe des joueurs comme Sneijder par exemple qui avait aussi pris de l'âge, qui n'était pas fit, qui avait grossi, et en fait van Gaal avait prévenu tout le monde en disant ben s'il est comme ça, moi je ne le prends pas au Mondial. Et en mettant les choses au clair, le résultat était que Sneijder s'est retapé complètement avant le Mondial et est arrivé super fit et a quand même été sélectionné par Louis van Gaal. Mais avec Martinez, on a un style de coach qui est évidemment complètement différent. Mais ses actions sont aussi complètement différentes parce que ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il met des pampers à Eden Hazard et je pense que c'est un venin pour le groupe parce que c'est plus la méritocratie. On est vraiment là alors dans ces petits copinages et je pense que c'est pas possible d'avoir un groupe sain avec ce genre de choix fort. Et Eden Hazard représente vraiment ce symbole. Mais maintenant, c'est pas la seule chose qui ne va pas parce qu'au final, Eden Hazard il fait plutôt des bons matchs. Là, c'est la première fois que le groupe est confronté à un tel test avec autant de autant de pression sur ce dernier match de Coupe du Monde. Et en fait, il y avait pas mal d'huile déjà. Je vais pas vous re-raconter l'histoire de Courtois et de Bruyne, par exemple.
Oui, Maxence, tu penses pas que malheureusement, pour préparer ce match-là, le mal est très profond, quoi, et que c'est compliqué parce que c'est un match décisif. En effet, ils n'ont pas le droit à l'erreur, les Belges. et que quand tu te dis des choses comme ça, et on en a parlé avec Jean-Michel et avec Mamad, y a des trucs qui restent en place et surtout des doutes que tu as avec tes coéquipiers. Et tu peux pas faire abstraction de tout ça. Je pense que là c'est trop tard pour les Belges, non ?
Je ne sais pas si c'est trop tard. Ils ont, en fait, ils ont une formidable opportunité de renverser la tendance parce que imaginons qu'un nul aurait été suffisant, on aurait pu le faire et puis rester vraiment dans cette ambiance morose. Là, ils doivent créer un exploit, mais s'ils le créent, il va y avoir, à mon avis, à nouveau quelque chose qui va se passer dans ce groupe. Mais écoute, voilà, Maxence, il y avait déjà beaucoup d'huile et, oui. Et je pense que c'est surtout les déclarations de Bruyne au Guardian qui a mis un peu le feu en disant qu'il n'irait pas loin avec un vestiaire aussi vieux. Et je pense que des gens comme Vertonghen n'ont absolument pas apprécié cela. Maintenant, je pense que c'est une bonne chose que ça sorte maintenant et que les choses soient mises à plat.
Écoute, Maxence, on te le souhaite, Maxence, en tout cas, t'as l'air encore optimiste.
Oui, oui.
Nous, on est pessimiste, mais bon.
Voilà. Ce sera face à la Croatie, c'est jeudi à 16h, et en même temps, Canada-Maroc. Maxence, merci d'être venu au 32-16. Tu reviens quand tu veux, hein. En plus, t'as pas d'accent, donc franchement, il y a pas de soucis.
C'est fluide, c'est magnifique. Et puis, on va mettre de l'huile, nous aussi.
Merci, Maxence. À bientôt.
Salut, Maxence.
On revient dans une seconde. Le ring des supporters autour du Parc des Princes. Nasser Al-Khelaifi ne se sent plus le bienvenu au Parc. Est-ce que vous imaginez le PSG hors de son stade historique?
Merci, Anne Hidalgo.
32-16, à tout de suite.
Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.